écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, bonjour. Eh bien, ce titre sonne exactement comme celui d'une saga de science-fiction, ce qu'il est réellement. Sauf qu'il correspond à la réalité. Bon, c'est pas courant, mais il correspond à un débat qui anime la communauté scientifique depuis maintenant 5 ans.
Agora Côte d'Azur présente
Science et conscience.
François Conneau.
Il s'agit en fait, tout part d'un récent article scientifique paru sur le site Arxiv, que vous trouverez sur Internet, et un article également en cours d'édition dans le célèbre et néanmoins sérieux Journal of Astronomical Society. Il est signé de deux noms très conséquents dans le monde de l'astrophysique. D'un côté, Abraham Loeb, il est astrophysicien à Harvard, il en a même dirigé l'observatoire et le département d'astrophysique, et d'un certain Sean Kirkpatrick, moins connu du grand public. Mais Sean Kirkpatrick est le directeur du All Domains Anomaly Resolution Office, entendez par là bureau de résolution des cas non classés, des affaires non classées, du Department of Defense du Pentagone à Washington. Donc entendez par là que M. Kirkpatrick, si vous ne voyez pas très bien de qui il s'agit, ben c'est tout simplement celui qui inspire le personnage de l'homme à la cigarette dans les célèbres X-Files de la série de la télévision américaine. C'est celui vers lequel, M. Kirkpatrick, est l'homme vers lequel se tournent les policiers et les militaires américains dès lors qu'un phénomène ou un fait divers ne rentre pas dans les cases des explications plausibles telles qu'ils doivent les saisir dans leurs ordinateurs. Donc ce fameux article dont nous allons parler aujourd'hui a pour titre « Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena ». Alors le titre n'attire pas spécialement l'attention, ni en anglais ni en français. Si je le traduis rapidement, ça donne « des contraintes physiques sur tout phénomène aérien non identifié ». Et on n'est pas beaucoup plus avancé. En fait, le contenu de l'article vaut à lui tout seul une saga de science-fiction, voire même plus. Mais alors, de quoi diable s'agit-il donc ? Alors, en fait, revenons sur le premier auteur. Il est déjà très connu. Nous en avons déjà parlé dans cette émission. Monsieur Abraham Loeb, ou le professeur Abraham Loeb, s'est fait remarquer en 2017 lors de la visite du système solaire par un astéroïde de classe interstellaire. On appelle astéroïde interstellaire un astéroïde qui n'orbite pas ordinairement autour du Soleil, mais qui orbitait autour d'une autre étoile. Donc appelé, classé officiellement A2017-U1 et surnommé par les astronomes ou MUA-MUA. Donc en 2017, lorsque cet astéroïde, c'est assez rare un astéroïde interstellaire, c'est assez rare, mais au vu des caractéristiques de cet astéroïde, M. Loeb ou le professeur Loeb a affirmé à l'époque que la forme cylindrique de l'objet, ses accélérations qui étaient qualifiées par les astronomes de non-inertielles, entendez par là qu'elles ne répondaient pas à la mécanique classique, la mécanique newtonienne de la trajectoire d'un astéroïde classique, ainsi que le possible éclat métallique de l'objet, eh bien, en faisait un candidat plausible pour un vaisseau ou une sonde d'origine extraterrestre, une sonde alien. Et Abraham Loeb en a même fait à l'époque un livre pour le grand public. Et on sait que, quand on sait qu'à l'époque, à la même époque, il dirigeait le département d'astrophysique de l'université d'Harvard, ben, on prend la mesure du coup de tonnerre que constituait une telle prise de position dans la communauté scientifique. Précisons quand même que Loeb, lorsqu'il a publié son livre et ses articles sur Oumuamua en 2017, il a quand même été désavoué, enfin sans parler de désaveu, mais certains des astronomes qui étaient autour de lui ont quand même pris des distances par rapport à son hypothèse en disant que, selon ses collègues, qu'il allait un peu vite en besogne et que même si certains mouvements, la dynamique et l'aspect général de l'astéroïde étaient très atypiques, rien ne permettait pour l'ensemble de la communauté d'être aussi affirmatif que quant à la nature de cet objet en tant que candidat possible à une sonde ou un vaisseau extraterrestre. Mais revenons à M. Loeb maintenant. Oumuamua, selon lui, eh bien, serait similaire dans ses caractéristiques géométriques, dans ses caractéristiques générales, au vaisseau dépeint par le célèbre romancier britannique Arthur Clarke dans sa trilogie de science-fiction Rama, dont je vous recommande la lecture, et dont Denis Villeneuve, le metteur en scène canadien, va bientôt faire une adaptation au grand écran. Mais maintenant, revenons à Oumuamua, auquel Rama faisait penser très fort l'astronome Abraham Loeb. Alors, qu'est-ce qui fait que Loeb aujourd'hui revient sur ce sujet ? Eh bien, lors du passage d'Oumuamua près du Soleil, donc en 2017, et donc il est passé forcément quelque part dans l'orbite terrestre, eh bien, les astronomes ont quand même remarqué un fait encore plus anormal concernant cet objet non identifié, c'est qu'il a largué deux objets plus petits. Alors, avec leur radiotélescope, les astronomes ont quand même détecté ces deux objets, et les ont baptisés officiellement IM1 et IM2, Et les trajectoires de ces objets IM1 et IM2 ont été suivies par les radiotélescopes de la planète, de toute la planète à l'époque, et l'un de ces deux objets, IM2, est entré dans l'orbite terrestre, il s'est laissé capturer dans l'orbite terrestre et il a fini par se poser sur Terre, il a fini par atteindre notre planète quelque part sur sa surface. Alors, bien que depuis, IM2 n'ait pas été retrouvé, il est classé officiellement par la communauté astronomique, donc comme météorite intersidérale, c'est les deux lettres IM. Alors, si vous comptez bien, IM1 et IM2, ce sont tout simplement les deux premiers objets intersidéraux qui sont susceptibles de s'être posés sur Terre depuis qu'on connaît des météorites intersidérales. Maintenant, fort de ces constatations-là, en 2022, suite à ces premiers travaux sur Oumuamua et puis sur les objets IM1 et IM2, Abraham Loeb a obtenu du département de la Défense, donc du Pentagone, et donc du fameux bureau des affaires non classées, ainsi que de la NASA, un financement joint, donc du département de la Défense et de la NASA, pour un projet qui est désormais appelé le projet Galileo. Donc je vous laisse chercher sur Archive, les mots-clés sont Kirkpatrick, Loeb, L-O-E-B, plus Galileo, et vous allez tomber sur l'article en question. Donc il s'agit désormais, dans ce projet Galileo, pour les Américains, d'organiser sur la planète entière les recherches du point d'impact de l'objet IM2 et peut-être de l'objet IM1 également. L'article que je vous ai mentionné en début d'émission, il porte précisément sur ce projet Galileo, il en décrit précisément les origines et la méthodologie. Dans cet article, Loeb et Kirkpatrick établissent que la dynamique de l'objet IM2 est davantage compatible avec la cinématique et le pilotage d'une sonde d'exploration, telle que les Terriens en font sur les autres planètes, qu'avec celle d'un objet inerte qui serait une simple météorite. Et donc, selon les deux auteurs, il s'agit potentiellement d'une sonde d'exploration autonome d'origine extraterrestre qui se serait posée sur notre planète. Donc Loeb, évidemment, est connu pour être l'un des défenseurs contemporains de ce que l'on appelle l'hypothèse de la panspermie. Donc je vous laisse chercher dans le dictionnaire ce qu'est la panspermie. Ça veut dire en deux mots que la vie naît dans l'espace et ne naît pas dans les planètes. Et donc du coup, au vu de cette hypothèse de panspermie, ça veut dire que la vie est beaucoup plus courante dans l'univers qu'on ne le pense si on pense que la vie n'apparaît que sur des planètes de type terrestre. Donc il y a d'autres grands astronomes et physiciens qui sont des défenseurs contemporains de la théorie de la panspermie. Je pense à Freeman Dyson, prix Nobel de chimie, l'astronome Vikram Ashringa également, sont des grands défenseurs de la panspermie. Et Loeb est entre autres l'auteur de la fameuse théorie dite de l'univers habitable, qui est la théorie aujourd'hui la plus avancée autour de l'hypothèse de la panspermie. J'ai déjà fait donc une émission sur ce sujet-là, donc on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Bon, bref, voilà. Donc, pour en revenir à notre conclusion, tout simplement, ceci nous rappelle que la diversité des opinions, la richesse du débat qui anime la communauté scientifique des astronomes aujourd'hui, quand on aborde une question aussi sacrée que celle des origines de la vie, enfin sacrée, j'entends tabou dans les médias contemporains, ça contraste fortement avec ce qui se passe ailleurs dans d'autres communautés, c'est-à-dire à peu près partout, quand vous regardez dans les médias et dans d'autres communautés scientifiques, la question de l'origine de la vie paraît souvent tranchée. On admet que la vie est apparue sur Terre, on ne sait pas trop comment, on n'arrive même pas à le justifier, mais elle apparaît en tout cas pas dans l'espace, ça paraît quelque part incongru. Et donc en général, la question est très vite enterrée. Et donc par leur démarche d'ouverture d'esprit, même si tout le monde n'est pas d'accord avec Abraham Loeb dans ses hypothèses, les astronomes nous montrent une fois de plus de ce que devrait ressembler le quotidien d'une communauté scientifique, c'est-à-dire un lieu de débat, d'échange, où nulle question n'est tabou. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une prochaine émission.